Troisième partie. Comprendre qui sont les amis et s'en servir. Dans la dernière partie, vous apprendrez comment augmenter votre attention, comment améliorer votre concentration pour faire un focus instantané sur une tâche ou de manière générale. Pour pouvoir aborder ces astuces, il faut que vous connaissiez votre attention de manière plus détaillée. Dans la première partie, je vous ai présenté votre attention comme on présenterait un ami à une soirée. Vous avez rapidement discuté avec, vous vous êtes fait un avis, mais vous ne la connaissez pas encore complètement. Tant mieux, l'intérêt est stimulé par le mystère. Je vous propose un rendez-vous plus intime, en tête-à-tête, avec votre attention. Une fois que vous serez devenu plus proche, je vous donnerai une explication de ses goûts dans le quotidien, des outils concrets que vous utiliserez selon vos besoins. La carte d'identité de l'attention. L'attention est une fonction cognitive complexe. La cognition ? Mais Fabien, tu nous avais promis d'écrire quelque chose de digeste. C'est vrai, mais c'est aussi l'occasion de poser des définitions sur quelques termes utiles. La cognition est le procédé cérébral qui vous permet d'avoir conscience des événements, des personnes et des objets de votre environnement. C'est également le système cognitif, qui réunit toutes les fonctions cognitives comme l'attention, qui va vous donner la possibilité de stocker de la connaissance. Il vous permet aussi bien de savoir quel est le plat du jour d'un restaurant que de vous souvenir de ce qu'il s'est passé lors de la bataille de Marignan. Je force un peu avec ce fait historique, mais est-ce que vous vous en souvenez encore? Si vous avez joué le jeu, vous devriez être capable de donner les contours de cet événement. Nous allons jouer ensemble au jeu de l'entonnoir. Le cerveau est une immense collection de poupées russes. Vous savez, ces poupées qui en referment toujours d'autres. En comprenant le fonctionnement de chacune des poupées, vous pourrez prétendre à mieux vous connaître. Commençons par la base. L'attention est composée de trois capacités majeures. La première est votre capacité à être alerte. Cette capacité vous permet d'être vigilant face à l'environnement qui vous entoure. D'ailleurs, ça n'est pas simple d'être face à quelque chose si l'on est entouré. Cette compétence nous a certainement bien aidé au début de l'humanité pour voir si un danger apparaissait. Un buisson qui bougeait pendant que l'on cueillait de la nourriture et notre corps tout entier était prêt à faire son meilleur sprint pour se mettre en sécurité. Nous avons beaucoup moins de dangers immédiats à gérer aujourd'hui pour notre survie. Être alerte nous aide à détecter des choses en fonction de l'importance du signal. Dans l'effet cocktail party, c'est cette même capacité qui va vous faire prendre conscience qu'une personne a utilisé votre prénom dans une conversation à l'autre bout de la pièce, alors que vous étiez vous-même en train de discuter avec une autre personne. Vous voulez savoir quand on parle de vous, par curiosité, par nécessité ou par ego, et votre cerveau le sait. La deuxième capacité générale est le maintien de votre attention pour obtenir une concentration durable. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'expérimente moi-même cette capacité en écrivant ces mots depuis ma chambre d'hôtel. Mon cerveau me propose un nombre incalculable d'alternatives pour que je relève la tête de mon écran et que je m'intéresse à autre chose qu'à vous écrire. Plus la fatigue me gagne et plus des choses futiles me semblent extrêmement attirantes. Il est actuellement 23 heures et je trouve très intéressant la perspective de faire un peu de rangement dans la chambre. La durée de votre concentration varie en fonction de votre âge, mais nous avons tous généralement tendance à la surestimer. C'est le moment de préciser que, généralement, nous surestimons toutes nos compétences. Le biais de confiance excessive. En 2001, les chercheurs Brad M. Barber et Terence Dean ont tenté de qualifier la présence et l'impact de ce biais cognitif chez les humains. Le biais de confiance excessive se manifeste par la tendance à surestimer nos compétences internes, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Les études de 2001 démontrent que si ce biais est bien présent chez les deux sexes, il est légèrement plus accentué chez les hommes et encore plus si la personne est en situation de célibat. L'existence de ce biais provient d'une forte confiance en nos souvenirs. Nous partons du principe que nos souvenirs sont des témoignages fidèles de la réalité, alors que notre mémoire recompose nos souvenirs en fonction d'autres biais cognitifs. Les conséquences dans la vie courante sont multiples. Certaines personnes vont toujours avoir l'impression d'être en état de prendre le volant, qu'importe leur état de fatigue ou leur consommation d'alcool. D'autres personnes vont se lancer des défis sportifs qui ne sont pas à leur portée physique et qui exigeraient un entraînement préalable. Et, bien sûr, il n'est pas naturel ou spontané pour la plupart des gens de se dire que leur attention est détériorée et que leur capacité de concentration mériterait d'être réparée. Un des tests qui permet de confirmer ce biais consiste à faire remplir un questionnaire de culture générale, sous forme de questions à choix multiples, à un groupe de personnes se prêtant au jeu. Il convient ensuite de leur demander d'estimer le pourcentage de réussite qu'elles prêtent à leurs réponses. Ce pourcentage est toujours largement supérieur à celui des bonnes réponses effectives. Ce biais pose problème, car il empêche de se rendre compte de ses lacunes. Il nuit à la nuance et au principe de précaution. Dans le thème qui nous occupe ici, il nous empêche de prendre conscience de nos marges de progression ou de tirer des leçons de nos expériences, de nos échecs ou de nos difficultés. Comment améliorer durablement son attention quand on considère qu'il n'y a pas de problème ? Puisque notre comportement est enclenché sur la fonction alerte-réactivité, alors la concentration n'est pas notre état naturel, mais elle nous est nécessaire. En juin 2010, la société américaine C-Forma a réalisé un test sur plus de 4000 personnes, les salariés de cette entreprise. Cette étude interne démontre que pour les collaborateurs de cette entreprise, le temps maximum de concentration soutenue est de 12 minutes. Dans le cas où on leur demande d'effectuer deux tâches de même durée, sans expliquer les enjeux de ces tâches, 71% des salariés choisissent celle qui semble urgente et qui demande peu de concentration au détriment de celle qui était réellement importante. C'est bien la capacité de maintenir son attention qui aurait permis aux collaborateurs de se plonger dans les caractéristiques des tâches pour identifier celles qui comptent vraiment. Cette forme de concentration pourrait être appelée l'attention de persévérance, celle où l'on se maîtrise pour se contraindre à affecter nos ressources mentales à quelque chose de précis. La troisième et dernière capacité est justement la concentration dite normale. Oui, vous avez bien entendu. La capacité précédente s'entrechoque avec celle-ci. Tout n'est que nuance dans notre cerveau. D'un côté, vous aviez le maintien de votre attention volontairement, sans lâcher prise. De l'autre, vous avez la concentration. Une concentration normale, mais de qualité, est celle qui vous permet d'être enfermé dans une bulle mentale pour ignorer les distracteurs comme les sons ou les pensées qui peuvent surgir. Cette capacité s'active lorsque vous écoutez ce livre audio, par exemple. Je pense que vous l'écoutez par plaisir, par envie, sans vous contraindre sur une durée ou un nombre de minutes. Ces trois capacités peuvent être amoindries. Heureusement, le monde a tendance à être binaire. Elles peuvent aussi être renforcées par l'exercice physique, l'hydratation, la baisse du stress et de l'anxiété, un sommeil de qualité, une alimentation équilibrée, le fait de régler ses éventuelles addictions pour éviter les états de manque, etc. Nous y reviendrons plus tard. Continuons à ouvrir quelques-unes des poupées russes que nous rencontrons. Dans notre tête, là où vit tranquillement notre petite voix intérieure, se trouve une poupée qui possède également trois systèmes de pensée distincts. Encore trois ? On dirait presque que c'est fait volontairement, mais non. Pourquoi vous parlez des systèmes de pensée ? Parce que l'attention va avoir un rôle à jouer pour deux d'entre eux et vous allez pouvoir améliorer son efficacité dans le troisième. Le premier système est appelé algorithmique. Oui, comme pour les algorithmes des réseaux sociaux. Ce système est plutôt lent. Il analyse rationnellement les données en pleine conscience. Vous savez que vous êtes en train de penser à ce qui occupe votre esprit. Vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Lorsque je relirai cet ouvrage pour corriger les éventuelles fautes d'orthographe, je serai précisément dans ce système de pensée. Le deuxième système est appelé heuristique. C'est un système de pensée automatique, ou presque. Disons qu'il agit sans avoir besoin de la conscience. vous ne prêtez pas d'attention à ce que vous faites, votre esprit conscient est resté au chaud dans le premier système. À titre d'exemple, je pratique la course à pied. J'essaie de sortir le fait de conscientiser ma course du premier système, celui où je sais clairement que je cours, là où je me dis que c'est long, que ça me fatigue, pour pratiquer ma course dans le deuxième système, celui qui se fait sans moi. C'est dans ce système qu'ont lieu les erreurs d'inattention. Quand je corrigerai ce texte, il y a fort à parier que les quelques fautes qui seront inévitablement présentes le seront parce que ma relecture était passée en système heuristique. D'ailleurs, quand vous oubliez de tourner à droite lors d'un trajet en voiture ou à pied, c'est parce que vous pensiez à autre chose ou que vous discutiez avec quelqu'un. La conduite est parfois un système heuristique. L'attention n'est plus là où elle devrait être. Enfin, le troisième système est celui de l'inhibition. C'est l'arbitre sur le ring de boxe. L'arbitre doit décider quel système privilégier entre l'algorithmique et l'heuristique. Est-ce qu'il donne l'avantage aux automatismes ou est-ce qu'il va faire en sorte que son humain soit en pleine conscience de ce qu'il fait? Il va prendre en compte les ressources disponibles, votre état de fatigue, votre habileté à effectuer la tâche automatiquement et va, au besoin, mettre en place des remparts pour résister aux automatismes qui ne sont pas utiles. En décidant de redevenir maître de votre attention et d'en prendre soin, vous avez, par la même occasion, décidé de donner du poids, des outils et de la crédibilité à votre arbitre. Lorsque je mentionne régulièrement l'altération de votre attention, c'est assez métaphorique. Ce qui s'altère, c'est ce que l'on attend d'un bon fonctionnement de l'attention. L'arbitre entre les deux premiers systèmes fait partie des points clés permettant à une attention de fonctionner correctement.